prison, puis une sentence à vie. C'est exact. Trop de dictature, trop de...
Les situations ne sont pas comparables dans un pays où il y a une vraie démocratie, dans un pays où il y a une relative démocratie.
Est-ce qu'il faut une éducation et une révolution?
Je pense que l'éducation est nécessaire, c'est pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre d'où on vient, où on va. Je pense que l'éducation est souhaitable. Hein. Il arrive aussi des fois, par contre, que des gens peu éduqués, ou dans des pays où il y a peu d'éducation, les gens se révoltent aussi.
Justement,
ça s'est vu également.
C'est une personne qui était...
Oui, c'est ça. Ça s'est vu, ça aussi. Hein. Faut pas non plus confondre éducation et compréhension.
Vous écoutez Planète Montréal du jeudi avec Katie Lady Special K et son équipe tous les jeudis de 16h à 17h30 sur les ondes du 102.3 FM.
Bonjour tout le monde. Alors, il est exactement 16h et vous êtes au rendez-vous pour Planète Montréal du jeudi. Alors, mon nom est Kitty, alias Lady Special K. L'émission dure normalement de 16h à 17h30, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on est avec vous jusqu'à 17h. Alors, écoutez, toute ma gang est là, attroupée autour de la table. Comment allez-vous?
Ça va bien.
Yes!
Yeah, super! Ah, nice! Alors, on va avoir une belle émission, toute pleine d'énergie, des sujets pertinents et surtout... Mon Dieu, ça va être contagieux parce qu'il fait encore vraiment très froid dehors. Je pense que ça va être notre discours pour les 8 prochaines semaines. Là, en ce moment, à l'extérieur, il fait moins 12 pour ceux que ça intéresse. Et la température ressentie est de moins 17. Alors, c'est bien de se rappeler qu'on est en plein cœur du mois de l'histoire des Noirs, ce jeudi 6 février. J'espère que vous en profitez bien parce que non seulement c'est le mois le plus court de l'année, mais c'est vraiment le mois où il faut sortir, se réchauffer, pas rester stagnant parce que c'est là qu'on va geler complètement. Hein? Fait que nous, on est là pour vous divertir, mais aussi vous faire de belles suggestions. Donc, Kate est avec nous.
Salut.
Madalina.
Hola.
Karine, qui vient de se joindre à l'équipe.
Oui, allô.
Allô, c'est ton baptême aujourd'hui.
En effet, très heureuse d'être là.
On va être gentille. Shelby également.
Coucou.
Et DJ Lix, qui est au table tournante, qui est avec nous. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. On ne sait jamais si vous avez envie de nous rejoindre par le truchement du téléphone 514-495-2597. Et je répète, 514-495-2597. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits mots par courriel à info@landurbain.com. Donc, on va continuer en musique, puis on revient tout de suite après cette pause avec notre première chronique, la chronique santé avec Kate.
Les ports de cuisses, d'étincelles et de belles phrases.
signes et les fluides. On s'éparpille la chair. On se lance avec crainte les mots qu'on meurt d'envie de se faire chuchoter à la tempe. Tu es ma maison, je t'aime sans raison. On oublie que tous les moments nous vont bien, alors on se touche sans se voir en s'éteignant à grand feu. On tue pour être l'autre, on se donne pour le posséder. On dit tu n'es qu'à moi, si tu bouges, je tire. On désinfecte nos tristesses à l'alcool et on brûle nos fantômes, nos briquets. Pour que nos faces ne s'effacent pas, on les peinture de fluo. On se vêtit de fleurs, on lèche nos larmes. On fait l'école buissonnière des sentiments. Et nos rêves qui s'effilochaient de filaments renaissent en phénix. On déplastifie nos désirs, mais on garde notre cœur dans un pot maçon bien scellé. On consomme la beauté et quand enfin elle nous touche, on en veut une autre. Parce que le cul du voisin va être bien plus vert, c'est sûr, j'imagine.
Nous sommes là, jeunesse féminine.
Alors, de retour au Lounge Urbain Radio avec Kate et Kitty et la Dream Team. Hello! Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une chronique santé. À chaque semaine, j'aime apporter de différents ingrédients qui sont à ajouter pour votre alimentation, des superfood items. Mais aujourd'hui, pour souligner le mois des Noirs, j'aimerais parler d'un item qui s'appelle le beurre de karité qui provient de l'Afrique. Donc, le beurre de karité provient de l'Afrique de l'Ouest et centrale. On le retrouve dans des pays comme le Nigeria, le Bénin, le Soudan, l'Ouganda. Et ça continue, on s'entend. Donc, le beurre de karité provient de la noix de l'arbre de karité, en fait. La raison pourquoi j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est parce que ça a des bienfaits qui sont tellement multiples et on peut l'utiliser de façon très versatile. Donc, premièrement, le beurre de karité, c'est 100% naturel et ça peut être utilisé comme crème. Crème pour la peau sèche, pour les lèvres gercées. On peut l'utiliser sur le visage, sur les lèvres, sur le corps. C'est bon pour tous les aspects. C'est aussi intéressant parce que c'est une crème qu'on peut utiliser durant l'été et durant l'hiver pour différentes raisons. Durant l'hiver, généralement, on a la peau très déshydratée. Donc, à ce moment-là, c'est un très bon hydratant et ça ajoute de la flexibilité à la peau. Donc, aussi, bon, si on dit les morsures d'insectes durant l'été, ça aide à réduire la démangeaison de la peau et les irritations. Pour ceux qui souffrent d'eczéma, c'est très recommandé d'ajouter une couche très fine de beurre de karité parce que c'est très épais. Mais à ce moment-ci, ça va rétablir l'inflammation de la peau. On dit aussi si que durant l'été, on se promène dans un champ et on touche de l'herbe à poux, ça va démanger la peau instantanément. C'est recommandé aussi d'utiliser du beurre de karité pour cette raison-ci. Et durant l'été, durant l'été, on n'a pas le problème de la peau gercée au même niveau, mais on a le soleil, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, les coups de soleil peuvent être prévenus et traité par le beurre de karité. Donc, on peut l'utiliser sur la peau qui a déjà été brûlée comme anti-inflammatoire ou sur la peau pour prévenir les coups de soleil parce que ça protège du UV. Donc, pour les hommes et pour les femmes, on peut l'utiliser si on pense à l'épilation. Donc, les hommes se rasent tous les jours. On peut suggérer de mettre le beurre de karité avant le rasage pour adoucir la peau et protéger la peau. Et pour les femmes, après l'épilation, par exemple, à la cire, ça aide à la peau à pas s'inflammer, en fait. Donc, ça a des atouts très bénéfiques. Aussi, une autre chose qu'on n'aurait pas pensé, pour les femmes enceintes de même niveau, on peut penser que ça protège des vergetures. Donc, en fait, la peau, elle va s'étirer et ça va protéger la peau pour rétablir la peau en tant que... accentuer la flexibilité de la peau pour être sûre de la protéger, pour pas laisser des marques permanentes à travers la grossesse. Sinon, on peut même la manger. Ça, c'est quelque chose que j'étais comme « What? » On peut même la manger. Mais oui, c'est 100% naturel. Ça provient d'une noix, d'un arbre. On peut l'utiliser comme huile à cuisiner. C'est très fort en vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine F. Donc, on peut
l'utiliser. C'est vraiment instructif.
On peut l'utiliser dans toutes les différentes façons. Donc, on peut penser pour la peau, pour le visage, l'été et l'hiver, c'est mangeable pour les femmes qui sont enceintes et aussi pour les cheveux.
Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être utilisé comme un masque hydratant pour les cheveux. Donc, ce que le monde font, c'est qu'ils se mettent une couche assez épaisse dans les cheveux, de la pointe du cheveu jusqu'à la racine, ou de vice-versa, genre, la racine jusqu'à la pointe des cheveux. Et ensuite, on le garde toute la soirée. On peut même dormir avec. C'est recommandé de mettre un bonnet pour protéger le lit et tout. Là. Mais ensuite, le lendemain matin, on utilise un shampoing très fort pour pouvoir retirer le beurre de karité. Et ensuite, ça donne un éclat absolument incroyable pour les cheveux, une flexibilité et ça, en fait, ça protège le cheveu. Donc, c'est un tout très bénéfique. Je vous suggère consommer, d'en chercher, de l'apprivoiser,
de l'élever
et tout, en
il
fait.
Il est très docile.
Très amical aussi.
Oui, mais non, c'est vraiment un super bon sujet, le beurre de karité. On n'en parle jamais assez souvent et c'est un bon lien que tu viens de faire avec le mois de l'histoire des Noirs. Puis, tu as fait une bonne recherche parce que pour la cuisson, il y a vraiment presque personne qui sait ça. Puis, je vais vous faire une petite confidence juste entre vous et moi. Et une fois, il manquait d'huile d'olive à la maison, puis j'étais en train de faire une recette pour les enfants, puis je me suis dit, mais il me semble que le beurre de karité pourrait être utile.
Oui, c'est exactement ça.
Et je l'ai fait! Vraiment, ça a vraiment fonctionné.
Ça avait un goût quand même? Est-ce que c'est un
goût? Non, parce que dans la cuisson, ça se mélange avec les aliments, exactement. Puis t'as juste vraiment ton élément gras que t'as besoin pour pouvoir aider à la cuisson. Là. Non, mais il faut s'entendre, hein. Il faut prendre le beurre de karité pur dans ces situations-là. Pas celui qui est parfumé qu'on retrouve chez Jean Coutu.
Mais même à ça, on peut retrouver dans différents éléments, comment dire, pour la peau, il y a toujours un ingrédient qui est le beurre de karité. Donc, mais ce n'est pas en état concentré. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le consommer d'une façon concentrée. C'est le beurre de karité pur à 100% pour appliquer sur la peau, sur les lèvres, été, hiver, dans les cheveux, pour prévenir des vergetures, pour aider l'inflammation, les piqûres de moustiques, l'eczéma, l'herbe à poux, pour protéger du soleil. C'est bon pour tout.
Bon, le produit vedette cette semaine, beurre de karité. Merci beaucoup, Kate. Alors, on poursuit en musique et on revient avec cette après cette plage musicale avec Shelby et son invité de la semaine.
African Revolution began in Haiti a long time ago. Si on retourne dans le temps, des salines rebelles en avant. Nous on s'en avait assez combattant contre la colonisation. Si on retourne dans le temps, des salines rebelles en avant. Parfois nous pensons savoir où nous allons, mais non, on ne le sait pas. Notre destinée a été bien pensée longtemps. Je veux
je ne sais pas.
voilà, on ouvre le micro, c'est live. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, vous écoutez Planète Montréal du jeudi avec moi-même, Kitty, alias Lady Special K. Ce que vous venez d'entendre là, c'est vraiment de la bombe. C'est Wesley qui vient de lancer son tout dernier album. Je ne sais même plus à combien d'albums qu'il est rendu, mais c'était le titre Colonisation avec Tikenja Fakoly qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ici au Québec. Et ben justement, on va parler de tout ce qui est culturel, importation, exportation. Et je me retrouve à côté de toi, Ania. Comment vas-tu?
Ça va, merci. Et vous?
Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, tu viens avec le soleil.
Je vais ramener un petit peu de chaleur.
En fait, tu viens nous parler plus précisément de la deuxième édition des rencontres franco-caribéennes. Qu'est-ce que c'est que cela?
Alors, les rencontres artistiques franco-caribéennes, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je propose de mettre en avant un pan fondateur des cultures franco-caribéennes au travers de trois volets. Un volet artistique, donc je fais intervenir des artistes qui vont illustrer la thématique. Un volet ethno-historique. Je trouve que c'est très très important de pouvoir appréhender nos cultures, les cultures qui ne sont pas celles des Québécois, donc les cultures des communautés ethnoculturelles, par un biais un peu plus intellectuel. Parce que pour certaines personnes, c'est ce point d'entrée-là qui leur fera apprécier les artistes. Et le dernier, c'est une cause. Donc, Franco-Caraïbes, tous les ans, se mobilise auprès d'une cause et aide au niveau de la communication pour pouvoir porter cette cause haut pendant tout le mois de l'histoire des Noirs. Voilà.
Et cette année, quelle est la cause vedette?
Alors, la cause, c'est la cause 1804, que vous connaissez peut-être. La cause 1804 va récompenser la persévérance scolaire. Voilà.
Mais encore.
elle offre des bourses. Hein, elle offre des bourses aux jeunes qui ont fait preuve de persévérance scolaire, des personnes qui sont peut-être un petit peu en difficulté, qui ont un petit peu de mal au niveau scolaire, mais qui vont faire preuve d'excellence pour atteindre des objectifs qui se sont fixés. Et une fois par an, ou des fois deux fois par an, il y a des bourses qui sont remises à ces jeunes lors d'un gala.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de décrochage scolaire, sans toutefois apporter des solutions. Et ça, c'en est une. C'est vraiment une belle cause.
Oui, puis c'est une belle motivation pour les jeunes, parce que pour une fois, ils sont dans une posture où on les valorise, on les récompense aux yeux de tous. Et je pense que, qu'on soit jeune ou pas, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, c'est toujours très, très motivant.
Ania, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y a un calendrier vraiment chargé, tout plein de sollicitations. Pourquoi les rencontres artistiques franco-caribéennes méritent notre attention?
Alors, le choix de Franco-Caraïbes, c'est toujours de travailler sur l'inclusion et sur l'interaction avec le Québec. Du coup, je propose des activités qui sont essentiellement grand public. Alors, je vais vous rappeler ces activités. La première chose qu'on fait, on fait un lancement officiel à l'Union française le 18 février. Là, vous pourrez rencontrer toute l'équipe, donc les artistes, le parrain de l'événement qui est Jérôme Pruneau, directeur général de DAM, Diversité Artistique Montréal, toutes les personnes qui vont être impliquées. Donc venez les voir, on va vous donner des petites pistes sur ce qu'est le bélé. On va commencer à faire quelques pas, on va commencer à se réchauffer, on va commencer à prendre un peu de chaleur pendant toute la semaine à partir du 18 février. Deuxième chose, grand public, on vous invite à participer à une conférence débat. Et quand je parlais d'interaction, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc il y aura Étienne Jean-Baptiste, qui est docteur en ethnomusicologie, artiste, écrivain, qui va interagir avec un ethnomusicologue québécois. Je trouvais que c'était très très important qu'au-delà de vous présenter quelque chose, on puisse avoir un petit peu un retour sur la façon dont le Québec, au travers de cette personne, peut appréhender un peu, et puis du coup on va instaurer un dialogue pour que nous on comprenne mieux comment vous ressentez les choses et que vous nous connaissiez un petit peu mieux au travers d'un certain nombre de questions-réponses. Cette conférence, c'est pas du tout une conférence professorale. Étienne Jean-Baptiste est aussi musicien et artiste, il a donné pas mal de conférences, donc ce sera aussi, ce sera une conférence qui sera illustrée avec Stella Gonis, qui va illustrer de façon pas à pas et avec le tambour ce que Étienne Jean-Baptiste va vous présenter. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très interactif. C'est une conférence qui dure à peu près 40 minutes et après on a 20 minutes de questions-réponses. Donc on vous invite à venir nous voir. Et là c'est au Centre culturel Simon Bolivar le jeudi 19 février.
Conférence en musique.
Voilà, conférence en musique mais pas du tout professorale. Troisième rendez-vous, c'est un concert. Alors, vous pouvez retrouver Stella Goni sur scène le samedi 21 février à la salle de diffusion Saint-Michel-Villeray Parc Extension. Donc, c'est un concert gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir la voir. Une fois de plus, on va être sur l'interactivité. À la fin du show, on va tous se mettre ensemble et on va tous danser.
Fait que ça s'annonce, c'est très festif.
Et dernier rendez-vous, c'est un cours privé qui aura lieu le dimanche 22. Ça s'appelle le cours de danse Chocobélé. Alors, on vous invite à venir prendre 1h30 de cours avec Stella. Stella est professeure de danse traditionnelle à la Maison du Bélé en Martinique. Et à l'issue de ça, pour vous récompenser tous vos efforts, nous avons un goûter gourmand avec des cake pop, des cupcakes.
Alors moi, je suis là.
Thé gâté chocolat. On vous gâte. Et puis, il y aura pas mal de petits tirages au sort. Alors, chaque fois que vous viendrez à un des événements de Franco-Caraïbes du 18 au 22, vous allez pouvoir mettre votre nom sur une petite feuille. Et le samedi, on va tirer au sort une personne qui viendra gratuitement au cours de Stella goûter Chocobélé du 22.
Voilà. Wow, génial. Merci beaucoup. Merci d'organiser ça. Vraiment, ça va être un programme haut en couleur. Où est-ce qu'on peut s'enquérir justement de la programmation et plus d'informations sur cette deuxième édition?
Alors, vous pouvez aller sur la page Facebook de Franco-Caraïbes. Alors, Franco-Caraïbes, le K de Caraïbes, c'est pas un C, c'est un K. Je vous l'appelle FRANCO-KA. RAIBES. Et là, vous pouvez retrouver.
Pour faire un jeu de mots.
Voilà. On parlera du gros cas une autre fois, c'est sûr. Vous pouvez donc vous inscrire et puis suivre notre actualité. Et puis, j'espère surtout qu'on vous y verra nombreux. On a besoin de monde, on a besoin d'interagir avec vous, on a besoin de s'amuser avec vous et on a besoin de chalet.
Ah, chalet. Écoute, Ania, merci d'avoir amené du soleil ici en studio à Radio Centre-Ville. Je te donne rendez-vous au quatrième rendez-vous, là où tu parlais de bouffe et de
chocobélé.
Oui, c'est ça, je vais être là.
On vous attend tous pour le lancement. Dans tous les cas, vous pourrez rencontrer les artistes. On sera tous là, on fera la fête, on boira un verre et ce sera le début d'une semaine très, très festive. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Oui.
Merci, Katie. Merci, l'équipe. Salut.
Alors, on va poursuivre notre programme. DJ Licks, press play. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. I wanna say that I call you into the heat of my child, and ever since the day you came into my life, I feel complete. I am the most precious and wonderful mother on this earth, for I keep you in my womb for 10 months, gave you birth after 17 hours of labor, but still I enjoy every time I see you rise in the morning, coming into my bed, kissing me all over my face and telling me, mommy, you love me. I am so happy to be the way you feel, like it's the only thing you ever wanted was me, baby. So I love you, baby. Every time I see you rise in the morning, yeah, hey, I feel so blessed, baby, to know that you just need to be your mommy, yeah. And the joy you bring has no way to compare. I wanna let you know, my baby boy, that I'm happy you chose me. I know sometimes I could be hard with you because you're rising up so fast, and I don't have time to see my baby becoming a boy. You already a toddler walking around and running around telling mommy no, but you know you are smart, so I know what you really be doing. The love and affection that you gave me make me feel so proud that I am a woman now today, virtuous and very happy and proud. But I want you to know something, my baby, I couldn't be more happy than just to be with you. My baby, yay. The sun you're bringing to my life, ooh, yay. Makes me wanna become better, become better, yeah. The sun you're bringing to my life makes me, I wanna drop a lyric, make you feel it like the only proudest thing in the world. I wanna become better, baby, just to be the mommy that you deserve me to be, yeah, yeah. Cette artiste s'appelle Queen Zaya. Elle est de Montréal et vous venez d'entendre son titre My Baby Cam. D'ailleurs, elle fait partie du programme du Festival Fro, qui est une autre activité donc qu'on vous conseille fortement ici à Planète Montréal. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y avait la première édition le 31 janvier dernier. La deuxième sera le 7 février prochain. Et le 13 février, c'est là où vous pourrez entendre Queen Zaya en live sur scène lors du Festival Fro. On poursuit l'émission avec Shelby. Shelby, comment vas-tu?
Salut, ça va bien et toi?
Ça va super bien. Shelby, tu nous viens toujours là avec des sujets pour mettre à l'avant-plan la scène du cinéma, télévision, les acteurs. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce monde qui ne roule pas ou qui roule très bien?
C'est facile.
Mais là, je pense que tu avais décidé de faire une suite à la semaine dernière.
Oui, donc la semaine dernière, on parlait de la diversité à la télé, au théâtre et au cinéma. Alors, j'ai voulu un peu, dans le fond, renverser ça et regarder derrière la caméra qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, les acteurs peuvent avoir de la difficulté à s'intégrer, mais les personnes aussi derrière, que ce soit de la diversité ou pas, ont de la difficulté à pouvoir percer dans le milieu du cinéma, que ce soit pour être caméraman, réalisateur. Alors, j'en nomme quelques-uns, mais c'est juste pour dire à quel point c'est très, très difficile de pouvoir percer si t'as pas de contact. Alors, c'est à ce moment-là que... qu'arrive Trépied, j'ai avec moi l'invité Israël Valencia, qui est un membre fondateur de Trépied. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Trépied?
Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour.
Oui, oui, on va continuer.
On va continuer.
Le son va s'ajuster.
Ben, je vais juste parler un peu brièvement à ce moment-là de Trépied. Qu'est-ce que Trépied? Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'outiller les jeunes et les immigrants d'ici ou des immigrants ou des personnes d'ici qui ont de l'expérience dans l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma et qui veulent faire carrière dans ce domaine. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. C'est quand même assez surprenant que, qu'il y ait un programme comme ça à Montréal. Qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment aux personnes qui sortent des écoles de cinéma et qui aimeraient ça percer ou qui aimeraient ça se faire des contacts.
Oui, en fait, le cinéma, c'est une... bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Le cinéma, c'est vraiment un milieu dans lequel ça marche beaucoup avec des contacts, comme tu disais tantôt. Puis, on a trouvé que les immigrants, quand on arrive, c'est la chose qui nous manque le plus.
Ouais, c'est une problématique.
Exactement. Normalement, on a l'expérience. Ça peut être une expérience un peu différente, mais c'est une expérience qu'on peut acquérir facilement. Mais, par exemple, les problèmes, celles qu'on rencontre le plus, c'est les contacts. Parce que, normalement, si on veut aller travailler dans un plateau de tournage, la façon la plus simple, c'est si on connaît quelqu'un, lui, il va nous inviter ou on peut aller le rencontrer puis commencer à faire des crédits pour devenir membre d'un syndicat, par exemple, ou pour simplement continuer à travailler. Donc, Trépied, c'est un organisme à but non lucratif qui... à trois volets. Le premier, c'est un peu comme donner des conseils d'employabilité dans lesquels on aide les immigrants pour créer leur CV ou leur portfolio. Normalement, dans le cinéma, ça ne marche pas beaucoup avec des CV, ça dépend du poste, mais on aide plus avec les portfolios. On a décidé de faire ça parce que normalement, on rencontre que dans les centres de jeunesse d'emploi ou dans Emploi Québec, on prend le cinéma comme n'importe quel métier. Puis c'est vraiment différent à tous les métiers. Donc, on pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui connaisse bien les besoins d'une personne qui travaille dans le cinéma, puis qui attaque cette problématique-là avec cette vision-là pour donner des conseils pour pouvoir trouver un emploi. Le deuxième, c'est de créer des projets de cinématographiques, donc courts-métrages, fiction, documentaire, expérimental, etc., série web, en fait. Puis, comme ça, donner l'expérience dans un plateau aux immigrants. Puis l'autre volet, c'est de faire des projections, de différents types de projections, que ça peut être des projections de cinéma québécois, un peu pour montrer qu'est-ce qui s'est fait ici à Montréal aux immigrants. Puis l'autre, c'est de faire venir le cinéma d'ailleurs pour montrer aux Québécois. Il y a déjà des cinémas d'ailleurs qui viennent se présenter ici dans plusieurs festivals, mais les réalisateurs sont des réalisateurs qui habitent ailleurs. Donc, il y a plusieurs réalisateurs qui viennent, qui vivent ici, qui ont fait déjà des films, mais ils ne sont pas présentés leur film ici à Montréal. Donc, on a vu donner cette opportunité-là de voir cette fenêtre-là.
Okay. Wow! Écoute, merci beaucoup. Dans le fond, moi, j'avais des petites questions parce que je trouve ça sincèrement formidable. Ça s'est venu d'où, cette idée-là de créer ce programme-là pour les personnes voulant vraiment percer dans ce milieu-là?
En fait, moi, par exemple, je n'ai pas étudié cinéma. J'ai étudié de la base génie industriel. Quand je voulais changer de carrière avec mon immigration, je trouvais que ce n'était pas très facile ici à Montréal. Puis je me souviens qu'une fois, je suis allé dans le Conseil des arts de Montréal dans une conférence. Puis je trouvais que le gouvernement, en fait les institutions, veulent aider les immigrants pour développer leur carrière dans le cinéma ou dans les arts en général, mais qu'il n'y a pas un organisme qui puisse aider à ces immigrants-là. En fait, il y a comme un espace entre les institutions puis les artistes.
Ouais.
Puis c'est là que je pensais, ça serait bien de créer quelque chose pour combler cet espace-là.
Ah, écoute, c'est formidable. Alors, je sais qu'on peut vous retrouver sur Facebook, Trépied Productions, n'est-ce pas?
Trépied.
Trépied
Montréal.
Trépied Montréal, et également sur votre site internet trépied.org.
Exactement. En fait, on a le site web en construction, mais bientôt va être dévoilé.
Parfait. Alors, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Israël, c'est vraiment super apprécié.
Merci beaucoup. Ben, Israël, je ne peux pas te laisser partir sans faire le clin d'œil que tu fais partie aussi de la grande famille de Radio Centre-Ville. Donc, on peut t'entendre aussi sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Oui, exactement. En fait, si les gens veulent pratiquer un peu l'espagnol, vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 21h, de 21h à 22h30. L'émission s'appelle Camara Descalza, puis il y a une autre émission avec laquelle on participe le même jour, s'appelle... mais c'est Camara Descalza chaque mercredi de 21h à 22h.
Ah, merci. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias.
Alors, on poursuit en musique, DJ Licks. Ça, c'était du bon Malika Tyrolien. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter l'émission de la semaine dernière. Elle était notre invitée et elle performait samedi dernier au Beau Bar, je crois. Madalina.
Oui.
Madalina. Oui, présente. Alors, cette semaine, tu as eu envie de nous parler de l'accorderie. C'est un organisme.
Oui, c'est un organisme et c'est même plus, c'est un concept made in Quebec qui s'exporte, s'il vous plaît, à l'étranger, même en France et la Corée du Sud est aussi intéressée. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Grosso modo, très grossièrement, si on veut dire, c'est du don de temps. C'est comme une banque de temps. Alors, Justement, on est dans une société de consommation et l'argent est tout sur toutes les lèvres. Et moi, je me demandais si on pourrait remplacer définitivement cette monnaie par une autre. Et je dis ça parce que depuis 13 ans, il y a un concept donc, qui apparaît en Québec qui s'appelle l'accorderie. C'est un réseau d'échange de services sous la forme d'un organisme à but non lucratif où la seule monnaie, c'est le temps de chacun. Et là, il y a des gens de tout horizon et tout âge qui peuvent échanger des services variés de trois façons, que ce soit individuel, collectif ou associatif. Et on appelle ça l'économie sociale. Alors, ça marche comment? Mais ça marche comme ça. Une heure de mon temps, ça vaut une heure de ton temps, Katie. Mm-hmm. Indépendamment de tes compétences. Donc,
que je sois avocate ou exactement. Plombier, une heure, c'est une heure.
Exactement. Ou le service, la complexité du service, ton temps, ben, ça vaut comme la même manière que mon temps mm-hmm. à moi. Et donc, le service est important, évidemment. Mais ce qui compte, c'est tout ce qui englobe cet échange de services, c'est la coopération, le lien social. Et donc, on échange finalement de l'humain. D'ailleurs, là, si vous regardez le mot « accorderie », il y a un mot dedans, là.
Corde.
Corde. Donc, c'est le lien. C'est le lien social. On coopère et on échange. Et qu'est-ce qu'on échange? On échange beaucoup de services. Au moins 1000 services répertoriés dans ce type de... Enfin, ce réseau, le réseau accorderie de Québec. 1000 services, c'est énorme. C'est énorme. Donc... On a de tout. On a du jardinage, performance artistique, bricolage, visite touristique, couture, massage pour chiens, mise en concert maison, garde de plantes, conseil informatique. Donc presque tout, parce qu'il y a des exceptions quand même. Pas de service de nature psychologique ou une pratique médicale conventionnelle. Donc, de la même manière, il faut savoir qu'en règle générale, celui qui demande le service doit fournir aussi le matériel. Si je veux que toi, tu arrives chez moi pour peindre la chambre, il faut quand même que je te donne...
De la peinture.
La peinture.
Parce évidemment. Que j'échange que mon temps.
Alors, ce réseau grandit tous les jours. Il y a à peu près... oui, c'est 12. 12 d'accorderies, tant en milieu rural qu'urbain à Montréal. On y trouve à Longueuil, à Trois-Rivières, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Québec... Montréal-Nord et même Rosemont. Donc, le réseau grandit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'accorderie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la richesse ne repose pas sur l'argent et les biens, mais surtout dans le partage, le don de temps, qui est en fait un don de soi, entendu comme don de ses compétences et de savoir-faire. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que cette philosophie arrive de quelqu'un que vous, peut-être, jamais aurez pensé à ça. L'accorderie, c'est une initiative de deux fondateurs, deux organismes. C'est la Fondation Saint-Roch qui s'occupe de la protection du patrimoine immatériel et bâti. Et le deuxième fondateur, c'est qui? Alors là, donc,
on est pendu à tes lèvres.
J'ai hâte d'entendre la réponse.
Mais écoutez, on est dans un système où on ne veut pas de l'argent, on ne parle pas de l'argent, donc c'est du don de temps, c'est une banque de temps. Et à la base, c'est une banque. C'est une banque, c'est la Caisse d'économie solidaire des jardins.
Vraiment?
Eh oui.
J'aurais jamais pensé.
Donc, si vous êtes pour la mixité sociale, pour une communauté solidaire fondée sur la réciprocité, la culture du don, si vous cherchez à échanger des services tout en créant un lien social, alors je suis sûre que l'accorderie, c'est pour vous. Donc, tapez sur internet accorderie.ca et osez à faire le pas simplement en téléphonant ou allant chez eux pour les sessions d'information. Je suis sûre que cela, ça changera votre manière de voir les choses et surtout d'agir.
Waouh, c'est génial, vraiment instructif. Accorderie, ça s'écrit accorderie.com. Oui. Merci, Madalina. À la semaine prochaine pour encore une autre belle surprise.
Certainement.
On poursuit en musique, puis on revient tout de suite après avec Karen et sa première chronique ici à Planète Montréal.
Oui.
Yeah. Comme d'hab, ma BS fait des lovés. C'est des bras, on lève ton revêt. Intérieur cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont broliquées, ils font des lovés, 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 lovés.
pour quelques feuilles, on va se fâcher. En 10 puis j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te le cacher. J'ai fait des love, 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 love. J'ai des problèmes, j'entends que les petits m'ont clashé. En plus ma chemise est tachée, le rap me suce et je veux pas cracher. À part ça mec j'ai rien à faire, je galère chez mon notaire. Je signe des apparts à 1 million et je me barre en classe affaire. Niquez vos rums, moi je l'ai déjà fait, je m'en suis lassé, je m'en suis lassé. Je mange avec le commissaire et le bijou qui me passe les bracelets. Bref, laisse ta bécane en ir, il n'est plus question de caler. Mon musper est comme leur teucar, il se fait toujours avaler. Funny funny baby, baby, baby. Les chelhés font pas crédit. Faut faire des levées, avoir un brolic sous le teddy. T'as connu des petits rappeurs street, dis bonjour au rappeur Wall Street. Ouais, ouais, si on te vend ce que tu veux, me accoucher. J't'ai dit comme d'hab, ma BS fait des levées. C'est des bras, on lève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Et tous mes robes sont proliqués, ils font des levées, 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 levées. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. Et puis j'ai tout arraché, Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, 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 lovés. Quand tu cartes, on en course poursuite. Dur de te racheter une conduite. Putain, il rappe à l'ancienne. Dans leur clip, y'a toujours des pites. Méfie-toi, un jour c'est tes potes. Le lendemain, t'envoies des pics. Ils n'ont pas retourné.
Ça, c'était La Fouine avec le titre Love In. Pour les amateurs de La Fouine, il va être à Montréal en début mars à surveiller dans le calendrier culturel. Karine, Karine Parker.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va bien, et toi?
Ben, très bien. Je suis très excitée de t'avoir ici avec nous, en studio, dans l'équipe. Cette semaine, t'as décidé de nous parler d'un sujet quand même assez important. Cette semaine, du 1er au 7 février, c'est la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires sous le thème « Les troubles alimentaires au-delà de la nourriture ». C'est quand même un sujet très important.
Effectivement, on est en plein dans la semaine des troubles alimentaires et c'est une semaine qui est supportée par ANEB, un organisme appelé Anorexie et Boulimie, et la Maison de l'éclaircie. En fait, si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une telle semaine ici au Québec, c'est simple, c'est pour en fait démystifier certains préjugés que les gens peuvent avoir autour de cette maladie, mieux comprendre les problématiques des personnes qui ont des troubles alimentaires et également acquérir des notions sur l'attitude à avoir auprès de ces personnes-là. Maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? En fait, il y a plusieurs facteurs. Donc, les premiers facteurs sont causés par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc, la première maladie qu'on retrouve le plus souvent est la boulimie. Qu'est-ce qu'est la boulimie? Ce sont des épisodes alimentaires suivis de comportements comme se faire vomir, prendre des laxatifs ou des jeûnes parce qu'on veut rejeter un peu ce qu'on a mangé. Il y a également l'anorexie, qui est une brusque perte de poids soudain, soit par des régimes drastiques, des jeûnes, des vomissements ou encore une fois des laxatifs. Il y a également l'hyperphagie boulimique, qui sont des épisodes de compulsion alimentaire vécus par la honte, la culpabilité. À ce moment-là, la personne se sent mal même d'avoir mangé. Et récemment, les chercheurs ont trouvé que un homme sur 9 pouvait également être atteint de la maladie. Souvent, on pense que c'est atteint seulement les femmes, mais ce n'est pas le cas. Par contre, c'est sous une autre forme qui s'appelle le complexe d'Adonis, qui à ce moment-là se retrouve généralement chez les culturistes, ceux qui abusent un peu des stéroïdes, de la graisse, des suppléments de protéines. Et pour démystifier un peu le tout, j'ai quelques statistiques ici pour vous. Donc, 60% des adolescents ne sont pas satisfaits de leur corps. Donc, ça prouve un peu que ça commence très tôt. Ce sont des troubles qui, chez les filles, chez les jeunes filles, se démarquent à partir de 5 ans.
Mais ça caractérise un peu l'adolescence, hein, de ne pas être satisfait de son corps, de ses parents, de sa chambre, de l'école. On est satisfait de pas grand-chose pendant cette période parce que c'est une grosse période de changement.
C'est vrai, c'est une grosse période de changement. Il y a des gens, malheureusement, soit vus par leur encadrement ou leur passé sont un peu préconisés à vivre ce genre de trucs-là. Et avec toute la pression sociale aussi qu'on a à avoir une certaine allure, malheureusement, ça prend un grand coup pour plusieurs personnes. Chez les garçons, par contre, ça va être au début de l'adolescence. Donc, ce sont des troubles qui se retrouvent un peu plus tard.
Parce que de plus en plus, les jeunes garçons, là, ils ont la pression d'avoir un six-pack puis des muscles définis. Ça arrive à la fin de la puberté, ça.
Exactement. Mais oui.
Pas à 10 ans.
C'est ça. Puis justement, on peut penser qu'une personne qui a un peu la peau sur les os est automatiquement anorexique, mais ça, c'est un mythe parce que les gens qui peuvent paraître parfaitement en santé, bien aisés, peuvent souffrir de l'un de ces septos blancs. Donc, c'est à surveiller, à porter attention à les gens autour de vous, les gens que vous voyez au gym. Puis, sur le site de la semaine troublealimentaire.com, vous allez pouvoir trouver un calendrier, des outils à savoir comment démystifier le tout et intervenir auprès des gens que vous soupçonnez avoir un de ces troubles-là. Et la cause, bien sûr, on se demande toujours quelle est la cause derrière tout problème. Ça peut être le perfectionnisme, l'anxiété, comme j'ai dit un peu plus tôt, la pression sociale, le manque de confiance en soi surtout, la pression familiale, l'alcoolisme dans la famille et ceux malheureusement qui ont pu subir des agressions sexuelles dans leur jeunesse. Donc, je vous invite fortement à prendre compte de ce qui se passe cette semaine. Vous avez jusqu'à samedi pour participer à des activités à Laval, à Montréal, un peu partout au Québec. Et ce sont des activités comme des cours de yoga, donc très relaxant, à rentrer dans cet espace de zénitude un peu. Et il y a également des conférences avec des experts invités. Donc, encore une fois, semaine-trouble-alimentaire.com pour avoir l'information sur cette semaine spéciale.
Mais merci beaucoup, Karen.
Merci.
Puis, est-ce que tu as aimé ta première expérience?
Amazing.
Super. Écoute, on part en musique et on revient après cette pause. C'est presque la fin de l'émission, mais juste avant, on a deux invités qui viennent de rentrer en studio. Doro, un des instigateurs de Miss Afrique 2015. C'est la 5e édition. Ça va avoir lieu ce samedi 7 février. Et il y a également Tasha Henry. Tasha se fait remarquer. C'est une chef. Elle travaille avec IGA et elle va se présenter à South Beach Wine and Food Festival. Ça mérite notre attention. Elle va présenter sa fameuse poutine créole. Alors, restez avec nous jusqu'à 17h.
Moi, un étrange. Moi, un étrange. Je suis raciste. Moi, moi je suis raciste. Je suis raciste. Envers les ignorants. Faudrait être plus cultivé. Surtout, je mets pas tout le monde dans les mêmes souliers. Métis sans couleur, on est tous plus similaires que différents. C'est la Saint-Jean Métis. En 1988, la rive sud de Montréal, quartier pauvre de Longueuil, qu'on appelait Long Ha, Long Long. Il y a une tête de micro, son teint couleur café, mais le soleil chez lui est très sombre. Père noir, mère blanche, à peine petit frère dans le quartier. C'est une minorité, c'est juste des demi-frères dans le quartier. On rit de son afro, on le traite de nom, c'était ça des hormones. Je dirais qu'il y avait de l'ignorance dans le cruau. Fallu qu'ils se battent, mon frère. Fallu que les frères se rassemblent pour un confort, une stabilité, mon frère. Sa mère disait, waouh, t'es trop. J'aime tes cheveux, sois fier de qui tu es. Tu fais penser à Michael Jackson. Un mois plus tard, oui, il y a le manteau de Michael Jackson. L'autre mois plus tard, oui, il y a le gun de Michael Jackson. Né ici, ici, c'est chez nous. C'est la Saint-Jean Métis. Je passe partout à la casse. Yeah.
Alors, vous écoutez Un étrange avec son titre Saint-Jean de Métis. On recevait Un étrange il y a à peu près 3 semaines. Alors là, on a en studio Tasha, Doro. Comment allez-vous?
Super bien.
Ça va super bien.
Ça va super bien. Ah, Doro, redis ça encore.
Ça va super bien.
Oh. Non, mais il n'y a que des femmes.
Doro, je suis contente de te recevoir. Tu es la moitié de Miss Afrique. Mo n'est pas avec nous, mais écoute, tu représentes très, très bien l'équipe. 5e édition de Miss Afrique. Explique-nous un petit peu, quand même assez rapidement, parce que c'est déjà presque la fin de l'émission. Qu'est-ce que c'est que Miss Afrique et pourquoi les gens devraient se déplacer ce samedi à la Place des Arts?
Alors déjà, ce samedi, il faut venir pour soutenir tout simplement les candidates. On a 18 candidates cette année, donc il faut venir pour les soutenir. Elles prévoient un show vraiment extraordinaire. On essaye chaque année de faire mieux. Et je pense que cette année, ça va en valoir la peine. Et Miss Afrique Montréal, c'est un événement qu'on fait depuis maintenant 5 ans. Donc c'est une aventure humaine avant tout. Ça nous permet de valoriser la culture africaine et de mettre aussi en valeur la femme dans son entièreté, tout simplement.
Je suis tellement fière de vous, les gars. Moi, je suis là, je vous suis depuis la première édition.
Oui, c'est ça.
Déjà la première, mais oui, on était déjà tellement fiers. Miss Afrique, wow. Puis la 5e édition, c'est pas rien. Les filles qui ont gagné, qu'est-ce que ça a pu changer un petit peu dans leur vie, leur vie professionnelle, dans leurs rêves, leurs accomplissements?
Écoute, on est vraiment très fiers de chacune de nos lauréates, mais aussi de chacune des candidates, parce que Miss Afrique, c'est pas seulement pour les gagnantes. Donc on a un trio gagnant, on a une gagnante et deux dauphines chaque année. Et je pense que tout le monde en sort grandi, même nous, le staff. Je te dirais qu'après 5 ans, même moi, j'ai grandi, j'ai évolué.
Ah, j'ai vu des carrières exploser.
Exactement,
avec
à travers
Miss
cet
Afrique.
Événement. Et je te dirais que les filles, ce qu'elles gagnent, c'est divers. Il y en a qui ont gagné en maturité, il y en a qui ont gagné dans leur carrière, il y en a qui ont gagné aussi... par rapport à elles-mêmes, dans leur caractère. Par exemple, on pense à Sally qui a pu commencer à œuvrer dans le journalisme, qui a pu aller en Afrique faire de l'humanitaire. Harry qui a pu se rapprocher de son pays, la Guinée, qui a fait beaucoup là-bas en Guinée, notamment par rapport à l'épidémie qui sévit en ce moment, l'épidémie d'Ebola. Aminata qui, elle, a réussi à construire une clinique de maternité, c'était son rêve. Gabriella qui, elle, ça c'était la première lauréate, la lauréate de la première année, qui a participé à plusieurs autres élections dans le monde, d'autres élections de Miss. Donc je pense que chacune arrive à sortir quelque chose de cet événement-là, et nous aussi le staff tout simplement.
Vous n'avez plus besoin de convaincre que ce n'est pas qu'un concours de beauté, mais j'aurais envie de dire c'est un concours de culture de soi.
Hein? Ouais,
de promotion de soi et puis aussi tout ce qui vient avec. Comment on peut se procurer des billets pour assister à cette 5e édition ce samedi?
Alors en ce moment, les billets sont toujours disponibles en ligne sur le site de la Place des Arts ou en personne à la billetterie. Et puis on a aussi quelques points de vente, le resto La Bijanaise à Côte-des-Neiges, un autre resto sur Jean Talon qui s'appelle Ico. Et enfin, le restaurant Le Bled, Saint-Denis et Sherbrooke. Sinon, tout simplement, allez sur la page Facebook Miss Afrique Montréal ou sur le site Internet, il y a toutes les informations.
Bon, là, je vais prendre mon accent africain. Ah, en tout cas, attendez pas le soir même pour acheter vos billets.
Ah, vraiment, et moi, je vais te répondre aussi avec un bon accent. Sinon, vraiment, ça sera trop cher.
Vraiment, hein? Vous allez être déçus.
Merci
beaucoup, Doro.
Merci à toi. Merci.
Alors, je tourne ma chaise vers toi, ma chère Tasha. Tu te rends à South Beach.
C'est incroyable. Je suis émue. C'est un rêve. Comme d'habitude,
alors,
c'est un autre rêve.
Permets-moi de bien te présenter Tasha Henry, qui est chef de I Can Cook Too,
oui.
Cuisiner à deux, chef à domicile.
Exactement.
Et vraiment, ton service a explosé. Maintenant, tu collabores avec IGA. Tu fais vraiment des comptoirs culinaires dans différents IGA de la région montréalaise.
Exactement.
Et tu viens de créer un mets, mais mon Dieu, un mets qui mérite notre attention. En plus, on est en plein cœur du mois de l'histoire des Noirs. On vient de passer la semaine de la poutine. Puis toi, tu nous présentes ta version, la poutine créole.
Oui, la poutine créole. Hier, j'ai eu une activité super. C'est un atelier au IGA Bois des Filions. J'ai présenté aux gens la poutine créole. C'était, oh Seigneur, c'était superbe.
Moi, j'ai goûté, là.
Oh.
J'ai l'eau à la bouche juste à en parler.
C'est vraiment une surprise. Fait que c'est sûr, surveillez les prochains ateliers. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir par vous-même le secret de la poutine créole.
Elle donne-nous au moins 2 ingrédients magiques.
Très simple. On enlève les patates et on met des bananes plantains.
Ah!
Fallait y penser! Et l'autre extra, c'est que je mets des petites boulettes d'amour, des boulettes de viande.
Mmh.
J'adore la, votre réaction.
Alors, hier, tu avais un atelier, justement, pour faire une levée de fonds, parce que toi, tu t'envoles bientôt, là, à South Beach, Miami.
Oui.
Pour quel événement, exactement?
C'est qu'à South Beach, je dois préparer 3000 poutines.
Ah bon?
C'est que quand j'ai fait l'événement de New York, les gens, ils sont tombés en amour avec peut-être ma personnalité, puis le côté différent que j'avais amené. Fait que ils m'ont invité à South Beach, puis cette fois-ci, je dois faire 3000 poutines. Je vous dis, c'est tout un défi.
Alors, écoute, nous, on te souhaite bonne chance. Ah. On te souhaite bon voyage.
Merci
beaucoup. On est très jaloux.
Mais il faut...
Parce que South Beach, c'est pas Repentigny.
Ça, c'est sûr, mais je vous invite quand même à venir dimanche, le 8. Je fais un atelier à Espace Urbain et ça s'appelle On cuisine à deux, spécial Saint-Valentin.
Ben oui, en prélude à la Saint-Valentin, juste pour donner un petit peu le goût, là, puis mettre l'eau à la bouche, là.
Exactement.
Pour la Saint-Valentin, venez cuisiner à deux à Espace Urbain. Ça va être au 5926 Saint-Hubert. Et puis, où est-ce qu'on peut s'inscrire à cet atelier?
À l'Espace Urbain ou en ligne sur Facebook. Vous avez juste à m'envoyer un email dans le site, excusez-moi, l'adresse email, c'est le info@icancooktwo.com.
Wow, merci beaucoup.
Ben merci, puis je vous ai amené des petites surprises, une petite salade.
Super. On va se régaler ici. Alors écoute, on met un petit peu de musique, puis on revient pour la conclusion, OK, DJ Lix?
Some we got you programmed like a beat. When I press nail, you'll guard your grill. Press kick, you move your feet. You can't compete. I got my hydrants parked on every street. I'm federal, nigga. Sun is sun. Come close and feel the heat. I know the streets. The white lines only separate me from me. You hide your plane in false God's name and still crash into me. Sign a tree. Mountains, I got real into the sea. You thought they stole you from my arms and carried you to me. Here's the key. DNA encoded in a beat. White rocks in the vial, nigga, ain't got nothing on me. Free, ask these editors at MTV. Fars, they know they publishing some new school poetry. It be, cause even that will do to turn the key. Doorways in the other worlds, the truth shall set you free. For me, I'm you, but also I'm he. Shepherd of a bastard flock that grazes in the street. Feel the beat. Nod your head, lean back, yo, touch your feet.
Alors, c'est tout pour cette édition de Planète Montréal. On vous dit à la semaine prochaine. Restez au chaud, restez gentils et profitez du mois de l'histoire des Noirs. Vraiment, ça, il y a une programmation haute en couleurs. Alors, à la semaine prochaine. Et en passant pour l'atelier culinaire, vous pouvez venir seul aussi. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre qui est venu seul. N'est-ce pas, Tasha?
Oui.
Bye.
Merci beaucoup.
Envie de vous faire connaître? Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de nos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
Pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté, vous devez présenter
le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada? Une seule adresse à Montréal, ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
Je tiens à remercier l'organisme La Ressource et la Fondation Rêve d'Esther, grâce à qui ce projet est rendu possible. Tous les propos tenus dans nos émissions ne représentent que les membres de l'équipe marginale originale.
Auditrices et auditeurs, bienvenue à Marginal Original, une émission sur les thèmes qui touchent la marginalisation dans notre société. On est une équipe d'une dizaine de jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui font un travail collectif. On vous présente à chaque deux semaines de nouvelles animatrices qui vont vous parler des enjeux qui nous touchent.
Bonjour, je m'appelle Jadrine, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ce soir, j'anime avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour Jadrine. Aujourd'hui, on va parler d'une grande institution au Québec qui est la Direction de la protection de la jeunesse, plus connue sous le nom de la DPJ.
L'équipe de Marginal Original veut présenter autant les bons côtés que les mauvais côtés de la DPJ, c'est-à-dire qu'il y a des familles, des parents qui ont vécu des bonnes expériences et d'autres des moins bonnes expériences.
Personnellement, j'ai souvent entendu des commentaires négatifs par rapport à la DPJ, mais je suis curieuse et intéressée d'en savoir plus sur les aspects positifs de cette institution. Moi, je me suis dit que ça existe depuis plus de 35 ans, c'est ce qui doit avoir une pertinence. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jadrine?
De mon point de vue, je n'ai jamais remis en doute la pertinence de cet organisme de la DPJ. Donc, cette émission serait vraiment utile pour connaître les avantages et les désavantages.
Dans le premier segment, on va vous présenter une entrevue avec Mélissa Roy, qui est une intervenante sociale et superviseure clinique au programme de négligence au Centre jeunesse de Laval. Et dans un deuxième temps, Roxane nous partagera son histoire, puisqu'à l'âge de 14 ans, elle a été placée sous la charge de la protection de la jeunesse. Tout d'abord, on va passer en musique avec Sir Pathétique, qui chante « Enfant de la DPJ ».
On t'a délaissé, seul et blessé, tout a été maltraité, pour certains abusés, 25 000 gars par année, j'ai besoin d'être écouté, sentir comme un détenu, privé de sa liberté, noirceur dans le paysage, douleur dans leur bagage, comme un animal en cage, vivre seul et rempli de rage, dur à vivre pour un enfant.
connaissance. Je cherche ma place. Je cherche surtout le bonheur aussi. Je me sens abandonné avec le cœur dans la glace. On m'appelle l'enfant de la DPJ.
Il faut se rappeler que la DPJ existe pour faire respecter les droits des enfants, comme l'explique si bien cet article de la Charte et des droits de liberté. Tout enfant a le droit à la protection et à la sécurité et l'attention de ses parents ou les personnes qui tiennent lieu peuvent lui donner. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Afin d'en connaître plus sur la DPJ, Caroline a interviewé Mélissa Roy, qui est intervenante sociale et superviseuse clinique au programme de négligence du Centre Jeunesse de Laval. Bonjour, Madame Roy, comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Je vais commencer avec une des premières questions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un signalement à la DPJ et à partir de quand c'est justifié?
Oui, je vous dirais qu'au moment où on fait un signalement à la protection de la jeunesse, c'est quand on a des raisons de croire qu'un jeune qui est âgé entre 0 et 18 ans a besoin de protection pour sa sécurité ou son développement, puis vraiment parce que la situation, on considère qu'est inquiétante, soit parce qu'il vit de l'abandon, de la négligence, des mauvais traitements psychologiques. Et ça peut arriver qu'on n'est pas toujours certain, c'est-à-dire est-ce qu'on doit signaler ou pas.
Okay.
Je dirais que dans le doute, ben c'est vraiment d'appeler et la personne pourra répondre à vos questions puis bien vous guider. C'est une démarche qui est confidentielle, puis vous pouvez la faire tout temps, dans le fond, 7 jours sur 7, 24 heures par jour.
Quoi faire à partir du moment où on est témoin d'abus?
Quand on est témoin d'abus physiques ou sexuels ou qu'on est au courant qu'un enfant vit des situations de ce type-là, on a le devoir et l'obligation de faire un signalement. Et tout professionnel, dans le fond, qui est au courant d'une situation qu'un enfant est victime, la loi l'oblige de signaler aussi.
Pourquoi la DPJ a été créée à l'époque? Pour quelle raison?
La mission de la protection de la jeunesse en 1979, c'est de protéger les enfants qui sont en difficulté, puis d'offrir une aide à leur famille, vraiment pour toujours être dans le respect des droits des enfants puis dans leur intérêt. Puis c'est toujours ce qui est actuel présentement.
Quels sont les critères pour devenir une famille d'accueil?
Il y a plusieurs critères pour devenir famille d'accueil. Entre autres, il faut pas que les gens aient des antécédents judiciaires, qu'ils soient en bonne santé physique et mentale. Il faut qu'il y ait aussi un espace physique pour pouvoir accueillir l'enfant. Et c'est bien quand ils considèrent l'enfant aussi qui est confié comme un membre de sa famille puis qui croit au potentiel de l'enfant qui peut se développer. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent offrir, dans le fond, du soutien, du temps, de la sécurité à l'enfant. À ce moment-là, quand les gens sont intéressés à devenir famille d'accueil, ils peuvent aller sur le site Internet de leur centre jeunesse de leur région. Et de là, il y a des soirées d'information où les gens peuvent se rendre et avoir de l'information davantage par rapport au rôle de la famille d'accueil. Et par la suite, faire un choix s'ils veulent poursuivre. Et les critères à ce moment-là et des rencontres sont mis en place là.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune est en centre jeunesse ou en famille d'accueil?
Oui, un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, dans le fond, ou en famille d'accueil, c'est un jeune qui peut pas vivre dans un milieu quand il est placé dans son milieu familial. C'est sûr que, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une décision qui est réfléchie vraiment quand on considère qu'il est en danger au niveau de sa sécurité puis son développement. Soit parce que ses parents arrivent pas à prendre les moyens pour mettre fin à la situation ou que malgré qu'il y a des moyens mis en place puis du support, la situation ne change pas pour différentes raisons. À ce moment-là, ben le jeune peut se retrouver placé dans un milieu autre que sa famille. Mais on souhaite toujours qu'il puisse retourner dans les plus brefs délais.
Oui.
Mais c'est pas toujours possible.
La DPJ s'occupe des jeunes jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce qui se passe après?
La protection de la jeunesse s'occupe des jeunes jusqu'à 18 ans. On a toujours le souci quand on est auprès des jeunes, quand ils arrivent à la majorité, même avant, de regarder avec eux le projet de vie pour eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent par la suite, auprès de qui ils peuvent être entourés. Alors, à ce moment-là, dans le fond, il y a certains jeunes qui sont placés en famille d'accueil et qui peuvent y demeurer. D'autres qui sont placés vont retourner dans leur famille naturelle ou sinon dans des organismes communautaires qui peuvent les supporter à leur majorité. On va aussi les informer beaucoup des ressources, des organismes autour de eux où ils peuvent avoir un support. On s'assure vraiment qu'ils n'aient jamais laissé seul dans dans le fond sans ressources. On a vraiment la préoccupation qu'ils puissent être entourés pour bien continuer à s'épanouir.
Qu'est-ce que ça prendrait de plus? Quelles ressources manquent-ils pour parvenir à sauver tous les jeunes?
Oui, ben je vous dirais que ce qui serait souhaitable, c'est que les parents ils puissent être supportés le plus possible, autant par les intervenants autour d'eux, mais aussi les gens qui sont autour d'eux, leurs amis, leur famille, la communauté, pour qu'ils puissent, dans le fond, arriver à répondre aux besoins de leur enfant, puis okay. qu'ils puissent demeurer ensemble sans avoir nécessité qu'ils soient dans un autre milieu que sa propre famille, puis que tout le monde, dans le fond, soit préoccupé du bien-être de l'enfant, puis de sa protection, puis qu'on met toutes des choses en place pour qu'ils parviennent à bien grandir et à bien okay, avoir ouais. réponse à ses besoins.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qu'est le programme PIL, dont vous êtes le superviseur clinique? Pourquoi ça a été créé?
Oui, dans le fond, le programme PIL, c'est une demande du ministère qui a demandé au niveau provincial, donc dans tout le Québec, que chaque centre de santé et des services sociaux puisse mettre en place un programme auprès des familles où les enfants vivent des situations vulnérables, dont la négligence. Mmh. Et dans le fond, d'avoir des supports différents auprès de la famille, travailler différemment pour qu'on puisse être tout le monde ensemble et que le parent soit pas le seul à être considéré responsable d'assurer, dans le fond, le bien-être de son enfant, mais que ça soit tous les gens autour, qu'on soit conscient que c'est un contexte souvent qui amène les parents à se retrouver dans une situation où ils n'arrivent pas toujours à répondre aux besoins de leur enfant et qu'il y a un manque. Alors, c'est que tout le monde soit préoccupé par le bien de l'enfant et qu'on puisse regarder ensemble là, à mettre des moyens pour que l'enfant puisse s'épanouir.
Et merci, Mme Roy, d'avoir répondu à mes questions.
Et merci à vous pour l'invitation.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci encore à Mélissa Roy, intervenante sociale et superviseure clinique du programme de la négligence du Centre Jeunesse de Laval. Si vous pensez que la vie d'un enfant est en danger, n'hésitez pas à composer le 514-896-3100. Je répète, 514-896-3100. Pour plus d'informations en général sur la DPJ, vous pouvez aller sur leur site web au www.centrejeunesse-de-montréal.qc.ca. Avant de passer à notre deuxième segment, on écoute une chanson qui parle de l'accompagnement d'un enfant avec les différentes étapes de sa vie. C'est une pièce du groupe Okoumé, À l'enfant que j'aurai.
Je t'écris quelques phrases, toi l'enfant que j'aurai. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai le goût de te parler. Parce que quand tu seras là, j'aurai peut-être pas le courage de te raconter la vie comme le ferait un vieux sage. En arrivant au monde, tu seras faible et petit. Le plus clair de ton temps, tu le passeras au lit. Tu vas t'aider ta mère, pousser quelques petits rottes, te barrer les pieds partout, puis tomber dans la garnotte. Mais un jour comme ça, surtout m'en veux pas trop. Faudra que t'ailles à l'école avec les autres marmots. Tu te feras crier des noms.
pas appeler plusieurs fois par semaine. Si t'as besoin d'argent ou ben si t'as de la peine, on ira boire une bière, je te chanterai la chanson que j'écris quand j'ai oublié de mettre un condom.
Un des objectifs de notre émission Marginal Original est de vous faire profiter des partages par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on a pu vivre en lien avec les thèmes présentés. Cette semaine, Roxane nous raconte son expérience et son parcours difficile avec la DPJ.
Bonjour à toi, Roxane. Ça va bien?
Bonjour, Jadrine. Oui, toi?
Oui. Alors toi, Roxane, tu connais bien la DPJ. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Moi, dans le fond, j'ai fait un pavillon jeunesse, un centre jeunesse, des familles d'accueil, puis des foyers de groupe. Dans le fond, j'ai tout fait. Puis j'ai vraiment vu les avantages et les inconvénients dans tous ces endroits-là. On parle beaucoup de désavantages, mais pas beaucoup des avantages des centres jeunesse. Certains ne veulent pas se ramasser là, mais la plupart du temps, c'est pour leur bien. Mais j'ai dû aller en centre jeunesse à cause d'agressions sexuelles de la part de mon père et d'intimidation. J'avais 14 ans, mais j'aurais dû être placée depuis la maternelle. Un jour, j'ai expliqué à ma pédopsychiatre que je voulais pas retourner chez mon père. À cause des abus, je savais que j'allais continuer à faire des tentatives de suicide, puis je voulais pas. L'hôpital a fait le signalement, puis je suis partie avec la protection de la jeunesse.
D'accord. Et au début, comment ça se passe quand on t'intègre à la DPJ?
J'ai commencé une semaine dans un centre fermé, le pavillon jeunesse. Les intervenants, si t'as un problème, ils sont là, tu peux aller les voir. Il y a tout le temps des agents de sécurité, on te surveille de vraiment proche. Pavillon jeunesse, entre nous, on appelait ça le PJ ou la prison jeunesse. Ça avait vraiment l'air d'une prison avec des agents de sécurité qui circulent en tout temps, avec une clôture barbelée exactement comme à la prison de Bordeaux. Mais les éducateurs étaient disponibles et aidants. Puis après une semaine, je suis allée en centre jeunesse ouvert. Au début, j'allais à l'école à l'interne. Tout le monde commence là. Puis après 3 mois, c'est si la travail social juge que tout va bien, tu peux aller à l'école à l'externe. Moi, j'avais demandé pour aller à l'école externe parce que, justement, tu sais, j'étais à mon affaire. Puis, ils me l'ont refusé la première fois. Fait que j'ai dû faire l'année scolaire au complet dans le centre. En fait, c'était pour ma sécurité. Ils avaient peur que mon père traîne dans le coin. J'étais frustrée sur le coup. Je voulais revoir mes amis à l'école, à l'externe. À l'interne, t'es toujours avec les mêmes personnes 24 heures sur 24. Puis surtout, il n'y a pas de cours de science, ce qui est quand même important.
Dirais-tu que tu as eu l'aide que tu avais besoin au moment où on t'a prise en charge?
Bien, ça dépend. On m'avait offert un soutien psychologique avec une psychologue des centres jeunesse. Ils m'ont dit « on va te faire rencontrer une psy dans notre bureau ». Mais c'est jamais arrivé. J'ai eu beau leur rappeler qu'ils m'avaient offert ce suivi psychologique, je l'ai jamais eu. J'étais très frustrée. Ils me parlaient de mes comportements problématiques, mais pas tout de mon père. On me reproche des comportements que j'ai eus à cause des abus de mon père, mais à lui, on ne lui reprochait rien. C'est comme si on me disait « c'est toi le problème, c'est pas lui ». À ce moment-là, j'ai fugué du centre. Je connaissais pas vraiment le coin, puis je savais vraiment pas où aller. Ils ont fini par me retrouver au bout de 4 heures. Ils m'ont envoyé dans la salle d'isolement ou la salle d'iso. J'étais vraiment... Après la salle d'iso, on nous emmène dans la salle de réflexion. Tu irais jusqu'à ce qu'un intervenant vienne te voir et te parler, comme... Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'aurais dû faire à la place? J'étais tellement agitée dans la salle d'isolement que je me suis blessée, ça m'a fait mal. Ils ont rien pu faire par manque de budget, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Par manque de budget, il était impossible, par exemple, de sécuriser les murs de la salle. Je suis restée environ 2-3 heures dans la salle d'isolement avant d'aller dans la salle de réflexion. J'ai finalement pris conscience que la fugue n'était pas la meilleure de résider. J'aurais pu revenir directement à l'unité et parler aux intervenantes au lieu de m'enfuir. On m'a dit que si je refaisais une fugue, on m'en renverrait au pavillon jeunesse, la prison jeunesse. Je me suis promis de rester tranquille.
Mais Roxane, éventuellement, ça ne fonctionnait plus pour toi au centre jeunesse. Pourquoi?
Après un an dans le centre jeunesse, j'ai pris la décision que je voulais retourner chez mon père. J'avais 15 ans. Je voulais absolument retourner dans mon milieu, retrouver mes amis et aussi pouvoir suivre mes cours de sciences que je n'avais pas au centre. Je voulais avoir mon secondaire 5. Au début, j'allais chez mon père une fois une semaine sur deux. Je croyais que mon père aurait changé. Ma travailleuse sociale me disait le contraire. Mais je voulais sortir. J'avais déjà fait 2 fugues. J'étais écœurée d'être au centre. Après un an chez mon père, il avait recommencé les abus. Je devais être placée, mais je voulais terminer mon secondaire 3. Je ne voulais pas retourner au centre jeunesse. Je ne voulais pas perdre mes amis, perdre mes cours de rattrapage et échouer en sciences. J'ai finalement réussi à finir mon secondaire 3. Puis mon père a recommencé de plus belle. À ce moment-là, j'ai cru que j'étais enceinte. J'ai fait un autre signalement, puis je suis repartie cette fois dans une famille d'accueil.
Tu devais être contente de changer d'air et d'aller dans une famille au lieu de retourner au centre.
Ouais, au début, c'était quand même plutôt difficile dans la famille avec deux jumelles qui n'étaient pas correctes. Pour elles, je leur volais leur place et leur importance. Ils ont finalement été transférés à cause de ça. 9 mois plus tard, j'ai passé 1 an dans cette famille. J'étais heureuse pour les 3 derniers mois. Pour moi, cette dame était comme ma deuxième mère. Ma mère est partie quand j'avais 3 ans. Encore aujourd'hui, je garde contact avec elle. Mais un jour, il y a une fille qui est rentrée dans la famille. Elle était méchante et retournait les autres contre moi, au point où j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Le regroupement des familles d'accueil ont convaincu ma mère de ne pas me reprendre à cause des tentatives. Ils m'ont alors envoyé en foyer de groupe.
Donc, encore une nouvelle expérience à la DPJ, ça n'a pas dû être très, très facile.
En foyer de groupe, on n'avait pas le droit de sortir ailleurs que dans la cour. On avait le droit d'avoir aucun appareil électronique, comme un téléphone ou un iPod. Tous les médicaments étaient sous clé, puis on me fouillait et me surveillait avant que je parte à l'école. Le gros désavantage, c'est que si tu as besoin de décanter, que ton moyen, c'est d'écouter de la musique, tu n'as pas accès à ta musique. Je gardais tout en dedans. J'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Les intervenantes voyaient que j'étais vraiment down. J'ai fait une autre tentative de suicide, puis je suis retournée 1 mois au pavillon jeunesse. Après 1 mois, ils m'ont envoyée dans une famille d'accueil, sauf que cette famille-là était carrément en diagonale de chez mon père.
Wow, tu ne devais pas trop être à l'aise.
Honnêtement, je n'osais pas sortir toute seule. J'avais peur de le voir. Il voulait absolument reprendre contact avec moi. Il me parlait quand je revenais de l'école. Moi, je l'évitais. Ça allait quand même bien dans la famille d'accueil. Je me suis mise à sortir avec quelqu'un à l'intérieur de cette maison. Éventuellement, ça a causé des problèmes et j'ai été obligée de partir après 5 mois. Ma travailleuse sociale a décidé que la DPJ fermait mon dossier. J'allais avoir 18 ans dans 2 mois. Et je devais donc retourner chez mon père. Ça finit mon histoire avec la DPJ.
OK. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Comment ça se passe pour toi actuellement?
Je dirais qu'avec le recul, je comprends que la DPJ m'a aidé quand même tout le temps que j'étais sous sa charge. C'est sûr que je n'étais pas d'accord à ce qu'ils ferment mon dossier comme ça pour me renvoyer chez mon père. Ils auraient pu m'aider à trouver un appartement supervisé, par exemple. Faire des démarches pour que je ne retourne pas dans ce même cercle vicieux des abus de mon père. Éventuellement, j'ai fini mon secondaire 5 et je suis partie dans une ressource communautaire qui m'aide beaucoup.
Merci à toi, Roxane, de nous avoir fait part de ton expérience de vie. J'ai rarement entendu parler du parcours d'une personne qui a vécu les centres jeunesse. Courage, bravo à toi.
Notre émission tire à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute. On tient à remercier la Maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté, la Ressource, la Fondation Rêve d'Esther, grâce à qui cette émission est rendue possible, ainsi l'équipe de l'émission Planète Montréal qui nous offre le temps d'antenne. On vous invite à réécouter et télécharger cette émission de Marginal Original. Rendez-vous au www.radiocentreville.com dans la section émissions spéciales. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine émission.
à tous ceux qui voient la vie comme je la vois et même différemment. Oh oh. Écoute Radio Centre-Ville. À tous ceux qui voient la vie comme je la vois et même différemment. Oh oh. Écoute Radio Centre-Ville. Kéber Bastien, Kéber.
Informez-vous en espagnol. Pulso, le journal des latino-américains à Montréal. Retrouvez Pulso dans une grande partie du commerce latino-américain ou abonnez-vous gratuitement. Pulso.ca. Pulso.ca. Pulso, information en espagnol.
Un foyer de découvertes musicales et multiculturelles. Une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs. Nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
Un monde différent.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.